Alors, on avait, j'avais juste effectivement précisé, vous l'avez entendu, que j'avais oublié un titre chez Marvel. Et pour cause, c'est un ancien titre Image qui redémarre pour la troisième fois au numéro 1. Il s'agit de Powers. Donc Powers est maintenant depuis quelques années chez Marvel. Ils avaient changé la formule entre temps parce que ils étaient passés d'un 32 pages à un 42 pages, ce qui permettait d'augmenter le prix sans le dire. Et donc quand Marvel savait pas trop sur quel pied danser, ils avaient ce titre parce qu'ils voulaient avoir une exclusivité avec Brian Michael Bendis. Mais ils ne savaient pas trop, mensuel, bimensuel, etc. Là, on nous annonce que le titre est de retour en mensuel. J'ai quand même un peu l'impression que les gens se sont un peu désintéressés de Power ces derniers temps. Parce qu'effectivement, le rythme de parution était totalement aléatoire.
Bah, je pense que oui, beaucoup de monde pensait que la série était tout bonnement arrêtée.
Tout le monde le pensait, oui, ça c'est clair. Et puis, il y avait aussi un album dont on nous annonce pour novembre la sortie, c'est l'Encyclopédie Powers. Alors, je crois que l'Encyclopédie Powers, elle devait sortir en même temps que le numéro 1 chez Image, avant de repasser chez Marvel, ou un truc du style. Cette encyclopédie, ça fait plus de 2 ans que tout le monde l'attend, c'est effectivement le serpent de mer, elle est reportée de mois devant mois, d'année en année. Et là, tout d'un coup, on nous annonce l'Encyclopédie Powers en même temps. Donc Marvel va peut-être sortir ses titres de Bendis et Michael Avenoming. Je suis très mauvais client sur Powers, je dois le dire. J'adore les avoir lus, mais je déteste les lire. Parce que je déteste Michael Avenoming, qui me gâche tout le plaisir de la lecture, et qu'il faut donc que j'ai passé un certain temps pour avoir oublié que le dessin me déplaît, pour trouver le scénario vachement intéressant. Voilà.
Oui, oui, c'est le fameux dessin cartoon que Anthony aborde suprêmement.
Voilà. Il y en a d'autres hein, comme ça, mais c'est vrai que Ming, c'est pas que je le déteste, c'est que vraiment j'ai énormément de mal à le lire. Autant oui, je peux détester Al Ren, autant non, je peux pas dire que je déteste Ming. Il y a quelque chose, mais j'arrive vraiment pas à accrocher dessus. À la limite, ça me bloquait moins quand il faisait Hammer of the Gods, dans un style très fantasy, je trouvais que ça passait mieux. Voilà. En tout cas, Power, c'est de retour chez Marvel. Pour combien de temps, on ne sait pas, mais on espère pour eux qu'ils vont réussir à maintenir la série à un rythme beaucoup plus soutenu que précédemment. Donc ça, c'était la nouveauté vraiment chez Marvel, pour finir sur du faux Image. Ensuite, on a du vrai Image, du gros Image qui tâche, du beau Image comme on attendait d'en voir depuis des mois et des mois. Et c'est Robert Kirkman qui nous permet d'avoir cela. Si je
merci
vous dis.
Robert Kirkman.
Merci Robert Kirkman, qui est quand même le nouvel homme fort d'Image, et c'est comme celui qui les a complètement sauvés, avouons-le. C'est le dernier qui reste et qui vraiment a une aura depuis que Eric Larson avait repris la tête d'Image. Ça manquait vraiment de noms forts chez l'éditeur. Là, on l'a retrouvé. Et alors, qui va dessiner cette série de Robert Kirkman? Eh bien, si je vous dis Eric Larson, Robbie Feld, Todd McFarlane, Wiles Portecchio, Mark Silvestri, Jim Valentino, vous me dites quoi?
Image.
Image, t'es pas bête. Si tu m'avais dit ça va être en retard, j'aurais dit t'as pas tort.
Aussi, oui.
Parce que bon, il y en a quelques-uns là-dedans. Portecchio, on sait que maintenant il peut tenir un rythme. Larson aussi. Robbie Feld, on a toujours des doutes parce que vu le peu de trucs qui sort, on sait qu'il s'est plus battu pour éditer que pour dessiner ces derniers temps.
Pourtant, Dieu merci. Le dessin est rapide et bâclé.
Non, mais en fait, son dessin, le problème, c'est qu'il l'a fait 15 fois. C'était les Titans avant, c'était les X-Men après. Du coup, ça devient Youngblood, mais il a refait 3 fois les planches entre-temps. Et c'est pour ça que ça donne cet aspect un peu bâclé. On peut pas dire le contraire. Il y a des fois, c'est le cas. Donc Kirkman a accédé au statut de fondateur. Et en tant que fondateur, il a le droit de faire un crossover où il ramène les personnages de tout le monde. Jim Lee n'est pas là, mais Jim Lee a revendu à DC, a un contrat d'exclusivité avec DC et n'est pas prêt de revenir chez Image. Il a fait, je crois, des séances dédicaces avec eux. Il était venu en copain parce qu'il avait quand même, il a toujours une part d'Image, mais il n'a plus aucun des personnages et il n'a plus le droit de travailler pour eux. Voilà. Donc quand même, là, on a une mini-série en 6 parties. 32 pages, 3,99 par numéro, ben, de toute façon ça va être le nouveau tarif maintenant, il va falloir s'y faire. Et donc on va avoir cette série qui au moins va renouer avec un certain plaisir du grand crossover image comme on n'avait pas eu depuis bien longtemps. Ça fait peut-être même ça fait pas 15 ans mais ça en fait plus de 10 en tout cas.
Le dernier dont j'ai souvenir moi c'est le c'est Image United ou Reunited, un truc comme ça qui était assez laid avec tout le monde.
Oui, qui était par qui celui-là? C'était
par Valentino peut-être. Je sais
c'était
plus,
mais... peut-être par Valentino, oui, tout à fait. Enfin bon, voilà, il y en a eu plusieurs. Tous sont nés en France ou la plupart, en tout cas. Larsen avait fait Mars Attacks et Image Universe, qui est inédit. Voilà, la plupart n'ont pas abouti. Topco n'a jamais fait le sien. Hein. Silvestri n'a jamais été intéressé par ça. Je crois que Jim Lee l'a fait. Mais je me demande si c'était pas par rapport à l'épisode de Gen 13 d'ailleurs qu'il l'avait fait uniquement. Enfin voilà, c'est un grand concept. C'était dans le concept de départ quand ils ont créé Image. Chaque créateur aurait le droit de faire un grand crossover avec les personnages de tout le monde. Todd McFarlane n'a jamais fait le sien non plus. Mais
il y a... Cyberforce.
Comment ?
McFarlane a fait un épisode de Cyberforce.
Oui, mais c'était dans le cadre d'un échange où ils avaient tous échangé titres pendant un mois.
Oui,
c'était
exact.
Pas un crossover, effectivement, de la sorte. Donc là, en tout cas, moi, je dois dire, je suis client et je vais sauter dessus. L'autre titre sur lequel j'hésite à sauter, c'est un one-shot. C'est le premier des Pilot Season et ça s'appelle Murderer. Alors évidemment que c'est designé la couverture est de Silvestri et c'est écrit par
devinez donc
un certain Robert Kirkman. Si vous vous demandez encore d'où sort ce Robert Kirkman, vous allez voir chez votre libraire, vous lui demandez les titres d'Elcourt et vous regardez deux titres qui s'appellent Invincible, qui revient bientôt dans un tome 4 en France, et le très connu maintenant Walking Dead, qui a fait 8 tomes je pense.
Oui,
qui a au moins fait les 8 tomes en France, qui continue à sortir très régulièrement.
Qui bénéficie d'un buzz récent avec une série télé en projet.
Voilà, mais ça effectivement, ça fait partie des choses qui sont en cours depuis longtemps. Il y a plein de séries qui se vendent et qui ont des projets de développement de séries télé. Faut quand même dire que c'est assez énorme le succès de Walking Dead. On n'avait pas vu un titre noir et blanc faire un tel succès depuis.
Oula.
Depuis. Et en termes de notoriété, on peut pas parler en vente brute. Parce que en termes de vente brute, c'est vrai que dans les années 70, on arrêtait des titres parce qu'ils ne se vendaient pas à des niveaux où maintenant on les continue très largement. Mais je me demande si depuis les années 50, on a eu un tel succès sur un titre noir et blanc. Je pense que depuis le tout couleur des années 60, on n'a jamais eu un tel succès sur un titre sans couleur.
À part Akira, peut-être.
Non, pas du tout. Akira, le succès aux États-Unis, ça reste la version couleur de Marvel.
C'est vrai, exact.
Voilà. Donc, il y a la version noir et blanc, je pense qu'ils l'ont découvert à peu près en même temps que nous. Donc, là, en tout cas, c'est Jason Spark qui est un type qui est condamné et qui va se transformer en meurtrier, comme le titre indique, et qui est bardé d'armes. Alors, pourquoi on hésite un peu sur ce Pilot Season? Parce que c'est un peu la quatrième série, la troisième année où on nous fait un Pilot Season. La première année, on nous avait annoncé que des personnages nouveaux, connus, pardon. On nous avait annoncé qu'il y aurait deux séries continues. La première, je vous en ai déjà parlé dans cette revue de presse, ce fut Sideblade par Rick Mays, qui a duré 4 numéros, où Rick Mays est parti au bout de 3 de la série, donc c'était un peu un échec. La deuxième, mon petit Alain, tu t'en rappelles?
Évidemment, mais c'est ma spécialité à l'époque, c'était Velocity.
Avec Chris Cross.
Oui, on a effectivement Chris Cross au dessin et Joe Cazé au scénario.
Voilà, donc la série n'est pas annulée, hein, je te rassure. Elle est reportée au calendrier grec et Chris Cross ne sera plus dessus. Voilà, donc c'est comme pour Jenna tout à l'heure sur Wildstorm, il va pas attendre 107 ans qu'on se décide. Un jour, nous promettons, on aura une série Velocity, peut-être un jour quand
ouais,
ils se disent...
Bien alignés,
Voilà. Quand ils se décideront peut-être aussi à relancer Cyberforce de manière convaincante, parce que la dernière fois qu'ils ont lancé l'équipe, ça durait 6 ou 7 numéros par patelie, et ça a été un bid sans nom. Donc là, on a un crossover Hunter Killer Cyberforce. Peut-être qu'on le verra revenir. Voilà.
Effectivement, Cyberforce par connaître au cas forte dans les mois qui vont venir.
Voilà, donc ça, c'était effectivement les éléments. Et puis derrière, on nous annonce également Tracker, donc une mini-série en 5 parties où vous aurez des couvertures par un certain Tsai, Francis Tsai et Derek Robertson. Donc Jonathan Lincoln et Francis Tsai font partie de Heroes and Villains Entertainment, qui est un groupe d'artistes qui s'est réuni pour faire de l'entertainment dans tous les domaines et qui donc au niveau comics ont choisi Topco. Donc oui, Pilot Season, tu me disais on a oublié d'en parler. Ben oui, pourquoi on a oublié de parler des deux derniers? Ben, c'est bizarre parce que moi je les ai lus, pourtant ça s'appelle, les deux gagnants, ça s'appelle Genius et Twilight Guardian. En fait, pour les avoir lus, il n'y a pas de concept, hein. Où il y a des concepts de one shot, mais il n'y a pas de concept à faire une série, et les personnages ne sont pas vraiment intéressants. Twilight Guardian, c'est sur une nana geekesque qui se prend un peu pour la fille dans la deuxième saison de Heroes, celle qui joue le super-héros avec sa capuche. C'est sans intérêt, elle remplit son journal de guerre, mais ça ressemble plutôt à Barbie War Journal qu'à Punisher War Journal. Elle a sauvé un chat dans un arbre dans sa journée et c'est tout. Donc voilà pas comment on peut en faire une série. Genius, ben, c'est un côté un peu flingue mafia, enfin même pas mafia, mais rivalité de bande sans qu'il y ait vraiment de bande adverse. Voilà, c'est pas vraiment des séries qui méritaient d'avoir des séries ongoing. Et ça me permet...
Elles sont toujours en développement.
Elles sont officiellement toujours en développement. Mais alors celle-là, il y a encore moins de dates. Il n'y a même pas de scénariste attaché, parce que je pense que Jonathan Hickman, qui avait fait Twilight Guardian, et je ne sais plus sur qui, sur Genius, n'ont même pas...
Les deux qui vont arriver sur Authority, justement, à Bernardine et quelque chose de Freeman, je crois.
Voilà. Donc de toute façon, je pense qu'on n'est pas prêt de les voir ressortir. Par contre, en parlant de choses auxquelles personne ne s'intéresse et qui n'ont pas le potentiel, ça nous amène à parler de la dernière sortie Blue Water qui s'appelle Black Scorpion.
Quelle transition !
Hein ? C'est pas fabuleux, ça ? Black Scorpion, vous le connaissez, il y a un téléfilm de Roger Corman. Et là, on dit Roger Corman et tout le monde fait « Oh, c'est sale !»
Ah oui, c'est sale, oui, c'est clair.
C'est sale. Ce téléfilm est passé plusieurs fois sur M6, en deuxième, voire troisième, peut-être même en quatrième partie de soirée quand on dormait tous.
Oui, c'est pas possible, oui.
C'est donc une espèce de super-héroïne. Voilà, c'est une version féminine de Batman, avec un budget de mauvaise série télé. Voilà, donc... c'est oui, c'est du Batman, du K2000, du ce que vous voulez. Ça se veut super héroïque. Ça a 20 ans et en 20 ans, Jekerman n'avait jamais réussi à le vendre en comics. Mais Blue Water est toujours prêt à racheter tout et n'importe quoi dans ces cas-là. Et ils ont racheté donc le concept de Black Scorpion pour le sortir. C'est quand même les gens qui nous font les séries de William Shatner, les séries de Vincent Price, enfin... Que des gens qui ont un nom connu à la télévision, au cinéma, qui ont disparu depuis 25 ans et qui essayent de se recycler comme ils peuvent chez le seul qui veut bien d'eux, qui s'appelle donc Blue Water. Donc, série à 32 pages, 3,99. On vous en a parlé, pourquoi ? Parce que pour l'anecdote, ça fait rire, mais qu'il faut quand même pas rigoler et aller l'acheter. Donc, on a des choses nettement mieux à vous proposer, notamment Super God. Supergirl,
mieux, effectivement.
Voilà. Alors, c'est pas pour le dessinateur Gary Gastoni, que je ne connais pas non plus, que je vous en parle. C'est pour le scénariste que tout le monde connaît. C'est Warren Ellis.
C'est quoi cet écossais célèbre qui s'appelle Warren Ellis ?
Hein ? Bah, voilà. Donc, Warren, mon ami Warren, il y en a une qui va me dire « Ouais, c'est mon copain, c'est pas le tien. Salut, Gabriel. » Warren Ellis, donc, fait... une série qui s'appelle Super God, avec donc un retour au super-héros, toujours chez Avatar. Ses précédentes tentatives sur le super-héros, je vous en avais parlé, c'était Black Summer et la suite, qui était un préquel en fait, qui s'appelle No Hero. C'était des réussites. Et donc là, il revient chez Avatar. Avatar, au départ, faisait pas de super-héros. Je pense qu'ils se sont dit que finalement, ça pouvait fonctionner. Je crois qu'en plus, Absolution de Christos Gage marche plutôt bien aussi. Et donc, il se lance vraiment là-dessus. Donc voilà, encore une série de Warren Ellis avec du super-héros bien punchy.
Hein.
Voilà, tout à fait. Voilà, donc on devrait de toute façon adorer cette série qu'il faut vraiment lire. En indépendant, on avait d'autres séries, notamment The Ghoul chez IDW. C'est du Steve Nice. Pourquoi je vous en parle quand même? Pour vous dire que le dessinateur, c'est Bernie Wrightson. Et que Bernie Wrightson n'est pas mort.
Il aura bien même en forme, hein, parce que les pages qu'on a pu voir...
Bernie Wrightson est quand même le dessinateur de la première mini-série Punisher sur Black Marvel Knights.
Oui, mais là tu cherches le caca aussi. Là.
Ah bah voilà. Non mais en même temps, faut pas rêver, il va pas nous refaire des gravures de la qualité de son roman Frankenstein illustré.
C'est vrai.
Voilà. Qui était sorti il y a des années chez Albin Michel en France. Qui est ressorti aux États-Unis avec des gravures supplémentaires et qu'on adorerait qu'un éditeur nous réédite parce que Bernie Wrightson a fait des.
Une bonne idée cadeau pour Noël.
Ah ben là, les gravures de Bernie Wrightson, elles sont à tomber par terre, comme sur ce bouquin.
Et.
Voilà, c'est le summum de sa carrière. Et donc, rien que pour dire qu'il est encore vivant et que. Voilà, bon, c'est The Ghoul, c'est du Steve Nice, hein, ça va être très classique, histoire de grands monstres, enfin de grands monstres de monstres à la Frankenstein et compagnie. Mais voilà, ils ont réussi à nous déterrer une fois de plus Bernie Wrightson.
Qui est. Pour dire quand même, les pages qu'on a pu voir sur internet postées sont quand même très jolies. Donc,
voilà. C'est non, pas le plus grand travail de Bernie Wrightson. Mais il revient à un niveau qui est quand même tellement meilleur que ce qu'il avait pu nous faire à certains moments. Et puis bon, le dernier titre dont on voulait vous parler, c'est Deadlock. Alors Deadlock, c'est une série qui est écrite par Arvid Nelson, avec Nick Stackal au dessin. Pourquoi je vous en parle? C'est un one-shot hein, uniquement, qui se passe dans un New York moderne, avec des gangs de gangsters, rappeurs et compagnie. Voilà, moi Arvid Nelson, je suis toujours preneur. Sa précédente série qui a quand même marqué, je pense, le monde des comics pour un certain temps, c'est Rex Mundi. 10 ans d'une série comme ça, en indépendant, avec un succès et des lecteurs qui sont restés jusqu'à la fin. Je pense que c'est quand même un beau succès de longévité.
Voilà.
Voilà. Et même si effectivement il a dû enchaîner plusieurs dessinateurs pour faire la série continue et on en est bien content. Voilà. Donc c'est quand même à voir. On va voir ce que donne ce one shot. Entre temps, il avait fait deux séries limitées, une sur Kul, donc sur un personnage à licence qui ne lui appartient pas. Et la deuxième série limitée qu'il nous avait fait, c'était Zero Killer. Sur un monde post-apocalyptique, mais où le 11 septembre n'a pas eu lieu parce qu'il y a toujours le World Trade Center entier. Voilà, donc une uchronie post-apocalyptique qu'il avait fait. On attend quand même son prochain gros projet. Je pense qu'on aura du plaisir à lire.